Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce.
Bonjour à toutes et à tous, merci de votre écoute fidèle et de votre soutien à Storia Voce et bienvenue dans cette nouvelle série de nos cours d'histoire. Une série en deux épisodes consacrée à un sujet peut-être inhabituel sur ces ondes, en tout cas passionnant, l'histoire de la musique au XVIIIe siècle en Italie et surtout à Rome où nous nous trouvons d'ailleurs. Et pour nous en parler, j'ai la joie d'accueillir Élodie Auriol. Bonjour Élodie Auriol.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc docteur en histoire moderne, membre de l'École française de Rome depuis septembre 2019. École française d'ailleurs qui nous accueille en ce moment et que je remercie pour cela. Élodie, vos recherches portent sur l'Italie du XVIIIe siècle et s'inscrivent à la croisée des histoires sociales, culturelles et économiques de la musique. Alors, je vous le disais, un cours d'histoire en deux étapes. Donc, dans un premier temps, aujourd'hui, nous allons poser le cadre du sujet. Panorama musical de ce flamboyant XVIIIe siècle, ce qui le caractérise, ce qui l'apporte comme transformation artistique et sociale au sein de la société romaine en l'occurrence. Et puis, dans un deuxième temps, la semaine prochaine donc, nous nous intéresserons à ce qui fait ce monde de la musique proprement dit, ses pratiques, ses institutions, ses dynamiques, notamment au travers de parcours et de carrières individuelles. Alors, Élodie Auriol, s'agissant du monde artistique, l'historiographie, les historiens se sont beaucoup intéressés au monde de la peinture, de la sculpture, de la poésie, de la littérature, etc. Mais finalement, assez peu au monde de la musique, en tout cas dans une bien moindre mesure, dirons-nous. Comment l'expliquer ?
Alors, je serais peut-être un peu plus nuancée. Disons que l'histoire de la musique, l'histoire des musiciens, a été d'abord un objet pris en compte par les musicologues, à juste titre, puisque c'est l'art sur lequel repose leur discipline. Mais on va dire que depuis une vingtaine d'années, les historiens se sont quand même emparés de cet objet d'étude. Alors pourquoi ils ont tardé à s'en emparer ? On peut évoquer plusieurs raisons, mais je pense que les principales sont celles liées en fait à une espèce de modestie et aussi une forme d'intimidation pour étudier cet art musical qui est très spécifique, qui est un art de l'éphémère, où sont en jeu aussi la pratique et l'écriture musicale qui semble, ou en tout cas moins accessible qu'un objet, qu'une sculpture, qu'un tableau. Et du coup, effectivement, il y a eu un complexe, peut-être une sorte d'infériorité qui a pu être, qui a pu entrer en jeu. En revanche, effectivement, je le disais, l'intérêt nouveau des historiens, donc depuis une quinzaine d'années, que ce soit aussi bien pour la France que l'Italie, mais aussi même des pays comme l'Angleterre, ont visé à considérer les musiciens comme des artistes en tant que tels, comme des objets d'études historiques, et d'inscrire finalement la musique dans l'histoire des réseaux intellectuels, l'histoire des pratiques culturelles et aussi l'histoire du paysage sonore.
Donc on précise bien que vous n'êtes pas musicologue, mais donc historienne.
Exactement. Histoire sociale de la musique.
Alors justement, l'histoire de la musique s'appuie évidemment sur des sources. Et quelles sont-elles ces sources ?
Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, elles sont beaucoup plus nombreuses et plus diversifiées que ce qu'on pourrait penser. Finalement, les sources traditionnelles sont bien sûr les partitions, les partitions des œuvres, mais aussi les livrets d'opéra ou les livrets de cantate qui sont effectivement ces sources basiques, élémentaires quand on fait une étude du style musical ou même de la production musicale. Or, quand on s'intéresse finalement aux musiciens comme objets d'étude, comme acteurs sociaux, donc finalement faire une histoire de la vie de ces individus, il faut aller voir d'autres sources. Et je pense par exemple à des sources paroissiales. À quoi elles servent ces sources ? Eh bien, elles permettent de documenter la vie des musiciens, donc de connaître des éléments sur leur mort, leur naissance, les mariages qu'ils ont pu acter, les réseaux dans lesquels ils s'intègrent. À côté de ça, on peut aussi penser aux archives notariées. puisque les musiciens, comme les autres individus, passent devant notaire, notamment pour au moment de régler ce qu'il va advenir après leur mort, donc en faisant un testament, ou bien même pour les plus riches d'entre eux, des inventaires de biens, des inventaires après décès, qui permettent alors à l'historien de avoir des éléments sur le patrimoine mobilier des musiciens et aussi des revenus dont ils disposent. Et à côté de ça, on pense bien sûr aux archives institutionnelles, aussi bien les archives des théâtres de Rome, pour connaître les rémunérations des artistes, les hiérarchies qui peuvent éventuellement en ressortir, ou bien dans les chapelles musicales aussi, pour connaître la somme qui a été investie ou financée pour telle et telle fonction musicale. Et à côté de ça aussi, on n'oublie pas les archives des grandes familles aristocratiques, puisque le mécénat musical a vraiment une part importante dans l'organisation du métier à l'époque moderne.
Et d'ailleurs, de ce mécénat, nous allons bien sûr en parler de manière plus précise tout à l'heure. Alors, que représente ce 18e siècle, ce siècle des Lumières, donc dans l'histoire de la musique en Italie? Élodie Auriol, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de mélomanie généralisée?
Alors, au XVIIIe siècle, c'est évident que la musique prend une place beaucoup plus importante que dans les siècles précédents, mais surtout en raison du développement d'un genre qui se développe dès le XVIIIe siècle, au cours du XVIIe siècle, c'est l'opéra qui va se diffuser aussi bien dans les principales capitales européennes que même dans des villes les moins importantes. Et la diffusion des opéras s'accompagne aussi de la diversification des lieux de spectacle, qui explique une accessibilité plus forte de la part des publics d'aller écouter des spectacles, de payer pour aller les écouter. Mais donc, il y a une vraie modification des lieux de la musique, des temps de la musique, avec le développement aussi du concert, comme nous l'entendons aujourd'hui. Mais il faut quand même spécifier que ces concerts prennent des formes différentes dans les villes. Et en ce qui concerne Rome, c'est beaucoup plus tardif qu'on a cette forme, effectivement, qui prend sa place. Et puis il y a aussi ce qu'il faut reconnaître à l'Italie, c'est une espèce de domination dans ce monde musical, puisqu'en fait la musique italienne, en particulier la musique napolitaine, devient vraiment la référence pour les villes et pour les capitales européennes. Et donc, on attend à entendre de la musique italienne dans d'autres contextes européens. Et la musique aussi circule, c'est une activité marchande. Donc, du coup, au XVIIIe siècle, on voit qu'il y a des évolutions pour... dans cette circulation du goût de la musique, et qu'on observe notamment dans les correspondances. On voit que par exemple les mécènes échangent des informations sur les airs qu'ils ont entendus, sur les spectacles auxquels ils ont assisté. Donc vous parliez de mélomanie, on peut vraiment parler du développement de l'amateurisme et de ce goût très spécifique pour la musique.
Alors vous parliez du développement de l'opéra, des concerts, etc. Est-ce qu'on peut dire que ce 18e siècle marque une sorte de basculement, d'une certaine manière, d'une musique sacrée qui était jusque-là prédominante à une musique profane?
Alors oui, sachant que il y a quand même une tendance aussi à une imbrication en fait des deux milieux. C'est-à-dire que souvent les compositeurs en fait vont composer, pas tous, mais certains vont composer aussi bien pour le milieu profane que le milieu sacré. Et cela va avoir des conséquences aussi dans l'évolution de la musique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de lire en fait les débats des contemporains, que ce soit des voyageurs, mais aussi des musiciens eux-mêmes, des contemporains et des compositeurs, qui vont en fait observer cette évolution de la pratique musicale dans les lieux sacrés et condamner pour certains cette forme de théâtralisation qui va s'insérer dans les chapelles. J'en veux pour preuve le témoignage de Jérôme de Lalande, qui exprime et qui regrette que l'on n'y distingue pas trop la musique sacrée de celle du théâtre. Voilà, donc c'est des formes en fait qui sont beaucoup plus moins opaques qu'on pourrait penser. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi de voir que des lieux de la musique sont investis aussi par cette musique théâtrale. Par exemple, les couvents les monastères, notamment féminins, à Rome. Eh bien, dans ces couvents, en 1727, dans le couvent de Santa Maria in Campo Marzio, donc à Rome, dans le centre effectivement de Rome, les religieuses vont pouvoir entendre des airs de l'opéra qui est programmé au Teatro Alibert, un des plus grands théâtres de Rome. Eh bien, dans leur monastère. Donc, ce qui prouve bien une circulation effectivement du répertoire qui, à première vue, ne concerne pas un lieu, un lieu de culte en lien finalement avec un lieu théâtral. Donc c'est assez époustouflant.
Une vraie imbrication du coup.
Une vraie imbrication, une vraie porosité. En fait des lieux de la musique.
Alors tout à l'heure on parlait de Venise et Naples qui sont réputées pour être des capitales européennes plutôt éblouissantes de la musique. Vous parliez du répertoire napolitain qui s'exporte très bien. On a de grands artistes comme Farinelli par exemple à Venise, Vivaldi qui était d'ailleurs prêtre, qui marque encore cette porosité entre ces deux styles de musique. Est-ce que Rome peut prétendre aussi à ce statut de capitale européenne de la musique ?
Alors, travailler sur Rome au XVIIIe siècle, c'était justement un peu l'un de mes objectifs, c'est de réfléchir à cette place de capitale musicale dans un panorama plus large. Alors, traditionnellement, Venise, c'est le lieu où s'est créé l'opéra, où s'est développé l'impresario d'opéra, et Naples, à l'inverse, prend un peu plus de poids, on va dire, dès le siècle suivant, au XVIIIe siècle, va aussi prendre une place importante pour la formation musicale. Rome, dans tout ça, effectivement, dans l'historiographie traditionnelle, va être un peu mise à l'écart, parce que c'est une ville qui s'est construite autour de la musique sacrée, de la tradition de la musique sacrée. Alors, on pense forcément à la chapelle musicale pontificale, qui est la chapelle, en fait, au service du pape. En réalité, quand on étudie cette ville d'un point de vue plus global, en prenant en compte les lieux de la musique, les institutions, on se rend compte que c'est une ville extrêmement vivace, qui a un dynamisme musical très fort. Et l'autre élément qu'on peut prendre en compte pour étudier finalement l'attractivité d'une ville et donc son rôle finalement de capitale musicale, c'est la mobilité. Or, les musiciens viennent à Rome pour s'y former. Alors, je pense par exemple à André Modeste Grétry, qui est un musicien, un compositeur liégeois, qui vient dans les années 1760, 6 ans à Rome, pour s'y former et pour essayer de faire carrière. Il va partir 6 ans plus tard, mais en tout cas, son expérience romaine, d'ailleurs, pour lui, était très importante et correspond à un véritable tremplin dans sa carrière personnelle.
Donc Rome est attractive pour un musicien.
Rome est tout à fait attractive, sans dépasser non plus des villes comme Naples et Venise.
Bien sûr. Comment ce monde de la musique, ce monde des musiciens très éclectique, on va voir ça d'ailleurs la semaine prochaine, comment ce monde-là s'intègre-t-il au paysage urbain de Rome ?
Alors vous me dites paysage urbain, je réponds paysage sonore. Finalement, on ne peut pas prendre en compte le paysage urbain sans réfléchir au bruit, au son, et donc à la musique qui se développe. Et ce qui est intéressant, c'est que la musique, effectivement, est partout. Là, les récits des voyageurs sont des sources extrêmement précieuses, puisqu'ils sont très marqués, très surpris de voir que, effectivement, la musique se fait aussi bien sur les places et les rues de Rome que dans les chapelles musicales. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que les chapelles aussi sont des lieux extrêmement d'affluence, en fait, où on vient écouter tel ou tel chanteur qui jouait d'une réputation particulière. On va écouter telle composition parce que le musicien est particulièrement connu et apprécié. Donc, effectivement, on se déplace en ville et on a l'occasion de découvrir cette diversité musicale qui est effectivement très forte.
Alors, tout à l'heure, vous parliez d'églises, de chapelles, notamment pontificales, etc. On sait que les cathédrales et les palais ont longtemps concentré autour d'eux une grande partie de la vie musicale. Est-ce que c'est toujours le cas au XVIIIe siècle ?
Alors, quand on parle musique, on parle forcément de commande, c'est-à-dire que la musique, elle va répondre aussi à une demande. Et effectivement, la demande religieuse est toujours aussi importante. Donc, on en a parlé déjà, les fonctions musicales à Rome sont extrêmement diversifiées, très variées, et la musique est un ingrédient de cette spectacularité qui passe aussi par les décors. Hein. C'est, faut imaginer des tapisseries, des objets précieux utilisés dans les églises, et le son, bien entendu, doit être important. D'ailleurs, on va faire appel à beaucoup plus de musiciens, beaucoup plus de chanteurs au moment notamment des fêtes extraordinaires, donc qui sortent du cadre liturgique, mais qui sont, par exemple, pour honorer un saint, qui sont organisés régulièrement à Rome. Donc, effectivement, les lieux de culte restent des lieux importants. Les palais aristocratiques, oui, sont tout à fait des lieux de pratique importants, mais ils restent quand même spécifiques. Enfin, il y a un public spécifique, puisque tout le monde ne peut pas avoir accès à ces espaces.
Il s'agit plutôt de fêtes entre amis, par exemple.
Alors exactement, c'est plutôt privé. Il y a quand même une tendance, il y a quand même une pratique de la part des mécènes, c'est d'organiser des spectacles aussi dans les rues ou bien sur les balcons de leur palais, pour justement permettre à un public en plus grand nombre
d'en
venir écouter et d'en profiter et de venir écouter cette musique qui résonne là. En revanche, je me permets de rajouter quand même que le XVIIIe siècle, c'est le développement en fait des théâtres, des théâtres publics. Alors, ce développement se fait à Rome de façon un peu lente, c'est-à-dire que les premiers théâtres publics datent de la fin du XVIIe siècle, mais il y a quand même une contrainte très forte de, on va dire, une tendance de la part de la papauté à limiter la pratique théâtrale. Et il y aura des périodes, même au début du XVIIIe siècle, où certaines saisons ne pourront pas être organisées en raison d'interdits en fait pontificaux. Parce qu'il y a une certaine crainte de voir ces lieux considérés comme ces lieux de débauche,
les lieux de péché, etc.
Voilà, qui ne sont pas assez respectant pas assez la morale, et donc effectivement qui sont considérés comme dangereux. Donc il faut éviter qu'ils soient actifs. En revanche, on voit que effectivement Rome n'échappe pas à ce développement théâtral, puisqu'entre 1709 et 1732, on ne compte pas moins de 7 théâtres qui se construisent, alors de taille plus ou moins grande, hein, mais ça prouve, enfin ces chiffres prouvent qu'il y a une véritable envie, un besoin de théâtre. Bien que aussi autre spécificité romaine, les spectacles publics ne peuvent être organisés qu'au moment du carnaval, donc c'est une période relativement réduite. D'autour de 6-8 semaines entre janvier et mars, voilà. Alors que dans d'autres villes, effectivement, les saisons théâtrales peuvent être beaucoup plus longues, ce qui fait que Rome est assez typique en son genre.
Sont-ce là les églises, les palais, les théâtres, ce sont là les seuls lieux de spectacle ou il y a encore d'autres?
Alors non, il y en a d'autres, effectivement. On peut penser notamment aux établissements de formation, donc les collèges, les séminaires sont aussi des lieux très important pour la vie musicale. Il y a même des théâtres privés à l'intérieur de ces lieux-là. Alors les oratoires qu'on peut aussi lier bien entendu au lieu de culte, et puis effectivement la musique de rue. Alors ça, pour l'historien, c'est une des énigmes, parce que on manque malheureusement de sources pour connaître exactement le répertoire qui est joué, qui était sur les places de Rome. Il y avait une autorité qui gérait, qu'on appelle le gouverneur de Rome, qui gérait l'activité dans les rues, mais effectivement c'est extrêmement délicat, à moins d'avoir des petites notices dans les périodiques de l'époque, de connaître vraiment de façon spécifique ce qui se jouait dans ces rues.
Alors maintenant, on va aborder une question peut-être, on va dire, une thématique en tout cas peut-être plus institutionnelle. On parle de Rome, évidemment, on pense tout de suite au pouvoir pontifical, au pouvoir des grandes familles et autres. Est-ce que le pouvoir en place encadre cet art musical? Comment l'utilise-t-il d'une certaine manière pour servir ses propres intérêts?
Alors, l'art, de façon générale, sert aux intérêts des pouvoirs mis en place, et la musique est un art et est aussi utilisée pour ce faire. On pense, quand vous me parlez de pouvoir, j'évoque forcément les pouvoirs pontificaux. Mmh. Il existait notamment des bandes musicales au service de la papauté. Alors, on a déjà parlé de la chapelle musicale pontificale, donc mm-hmm. là, d'un point de vue sacré, mais aussi des bandes musicales des trompettistes, qui intervenaient en fait au moment de cérémonies ou bien de cortèges à l'intérieur de l'espace urbain et qui représentaient les pouvoirs pontificaux. Par exemple, le Concerto del Castel Sant'Angelo. Alors, ce sont des petits ensembles mm-hmm. réduits à un certain nombre d'instrumentistes. Il n'y a pas de chanteurs. Hein, on est là vraiment avec des instruments, bien sûr, spécifiques, hein, les cuivres. Mais effectivement, ils ont un rôle militaire, civique, et la musique contribue à ce rôle-là. Et puis, à côté de ça, on a aussi des musiciens au service de la commune de Rome. Et donc, effectivement, ce sont pareil des bandes militaires qui ont leur statut propre, mm-hmm. etc. À côté de ça, bien sûr, quand vous me parlez de art et pouvoir, je ne peux pas ne pas mentionner les familles aristocratiques.
Bien sûr.
Parce que l'art leur permet de se distinguer dans le paysage urbain. Et bien sûr, les sons en tant que tels sont extrêmement importants pour se faire valoir, pour se démarquer. Et effectivement, toutes les occasions sont bonnes. Lorsqu'on reçoit un grand personnage, lorsqu'on reçoit un ambassadeur, pour organiser un concert dans son palais ou, comme on en a déjà parlé, dans les rues attenantes au palais mmh. ou sur les places. Et ce qui est intéressant, alors, le mécénat romain est très très varié, est marqué par un grand nombre de familles aristocratiques, mais je me suis intéressée notamment à une famille qui jusque-là était beaucoup moins connue pour son... Enfin, plutôt, elle avait été étudiée jusqu'au début du XVIIIe siècle et au milieu du XVIIIe siècle, beaucoup moins. C'est la famille Caetani. Mmh. Et pourtant, c'est un cas d'étude extrêmement intéressant parce qu'on voit encore dans ce cadre-là une volonté de la part de la famille de se distinguer par la musique, notamment en organisant dans son palais de villégiature à Cisterna, un carnaval en fait, en demandant aux artistes les plus prestigieux de venir y participer, mmh. en montant des spectacles qui ont joui d'une grande réputation. Et puis on organise aussi des fêtes spectaculaires, comme par exemple en 1768 où Francesco Caetani va organiser une réception toujours à Cisterna dans leur palais, pour la nouvelle reine de Naples et de Sicile, Marie-Caroline, donc oui. fille de l'impératrice Marie-Thérèse. Et là aussi, Francesco Caetani va s'impliquer directement pour choisir trois chanteurs qui, à l'époque, sont sur les scènes des théâtres publics pour qu'ils participent à ce spectacle qui vise en fait à montrer sa supériorité devant une princesse.
C'est une question de prestige.
Exactement, mmh. exactement.
Alors, vous l'avez bien évoqué déjà, vous avez distillé plusieurs éléments intéressants sur ce rôle des grandes familles princières et aristocratiques. Que serait Rome sans ces familles à toute époque, notamment à ce XVIIIe siècle? On pense évidemment aux Borghese et aux Farnese et Caetani, etc., etc. Alors, pour résumer, comment qualifieriez-vous le rôle que jouent ces familles dans cette effervescence musicale si propre au XVIIIe?
Ce qui est intéressant, c'est que donc on vient de le voir, l'art, le musical leur sert de vitrine en fait hein, pour se présenter. Mais pour les musiciens, c'est effectivement des lieux de la pratique extrêmement importants et donc des occasions en fait de travail qu'ils peuvent prendre en charge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, alors Rome se caractérise par une multitude de cours. On appelle ce phénomène le polycentrisme culturel. Et justement, les cours vont parfois dialoguer, travailler entre elles. Alors, je prends un des exemples les plus connus du début du XVIIIe siècle, c'est l'influence des cardinaux Benedetto Pamphili et de Pietro Ottoboni, qui vont parfois se prêter des chanteurs, des castrats, se conseiller sur les titres des œuvres qu'ils peuvent faire jouer dans leurs appartements. On assiste à une véritable émulation qui passe donc par cet échange culturel très intense. Et donc, je le rappelais aussi, c'est intéressant de voir que la musique prend place dans ces palais aristocratiques urbains, mais que les lieux de villégiature aussi sont extrêmement importants pour marquer le territoire à l'extérieur de Rome, dans les fiefs, dans la campagne romaine. Le rôle d'entrepreneuriat des aristocrates est extrêmement important également. C'est-à-dire qu'ils vont participer aussi à les vies théâtrales urbaines. Vous avez un certain nombre de théâtres qui prennent le nom de famille. Il Teatro Capranica, il Teatro d'Alibert. Et donc, effectivement, déjà concrètement, dans le nom, on voit l'influence des familles. Mais au-delà de ça, vous avez aussi, au cours du XVIIIe siècle, des formes d'entrepreneuriat collectif, c'est-à-dire que les aristocrates vont se mettre en société pour gérer les saisons théâtrales et faire en sorte que le théâtre soit animé. Alors, soit en faisant appel à des impresarios qui ensuite sont chargés de gérer en fait la saison en question, soit en s'impliquant directement en faisant le rôle d'impresariat eux-mêmes. Donc c'est vrai que c'est un rôle extrêmement précieux,
un rôle pivot en fait.
Pivot, exactement. Ce sont des finalement les cours des aristocrates sont des formes aussi d'intermédiaires extrêmement précieux entre le palais et la ville. Voilà, et il y a une forme de paysage sonore urbain, d'archipel sonore urbain qui se déploie à travers leurs propres actions.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Élodie Auriol pour cette initiation passionnante à l'histoire de la musique ici à Rome au XVIIIe siècle. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire moderne. Alors je précise également que le livre issu de votre thèse de doctorat, donc « Vivre de la musique à Rome au XVIIIe siècle » paraît ce mois-ci en septembre dans la collection de l'École française de Rome. Ce sera d'ailleurs le thème de la deuxième partie de ce cours d'histoire la semaine prochaine et je vous y retrouverai avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous.